est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Vous écoutez La Méridienne et avec moi. Aujourd'hui, en studio, j'ai le plaisir d'avoir 4 personnes. Noah, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette émission se place sous le signe de la passion. Et avec toi, en studio, 4 autres personnes, dont des invités que tu as choisis. Bonjour à toi, Corentin.
Bonjour.
Bonjour, Marjorie.
Bonjour.
Et bonjour, Émilie.
Bonjour.
Alors, je te laisse tout de suite la parole. Noah, donc tu as choisi d'inviter Corentin aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que tu peux nous dire qui il est?
C'est le référent étudiant. Un référent étudiant.
Oui, de quelle structure?
La Biche.
Oui, c'est ça, le Bureau Information Jeunesse, du coup. Je suis salarié en tant que référent étudiant avec diverses missions et 3 autres personnes qui sont tous en études. Notre but étant d'aller vers les étudiants pour leur proposer de l'information jeunesse sur leurs droits et sur ce qu'ils ont le droit d'avoir, que ce soit en aide financière, logement ou même alimentaire.
Et toi, le sujet qui t'intéresse, Noah, c'est les passions.
Oui.
C'est le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, donc avec nous et surtout avec Corentin. Alors, de quoi tu voulais parler?
Je voulais savoir quelles étaient tes passions à toi.
Alors, mes passions sont un peu diversifiées, mais assez dans un thème de divertissement, c'est-à-dire que je suis beaucoup intéressé par le jeu vidéo, ainsi que le manga, les bandes dessinées, mais aussi les jeux de société.
En quoi est-ce que ça te passionne ?
Ça me passionne puisque je m'occupais en fait la plupart de mon temps libre via ces moyens, donc plus particulièrement en premier temps les jeux vidéo, puisque j'étais souvent seul chez moi les mercredis après-midi ou les week-ends, et ça me permettait en fait de pouvoir me divertir soit avec des amis, soit en ligne avec des gens que je ne connaissais pas, et ça m'a appris à développer des fois des stratégies dans les jeux vidéo, ou bien du coup prendre du temps plus calme en lisant des mangas ou des BD, un peu quitter les écrans.
Ok. Et combien de temps passes-tu sur tes passions chaque semaine environ?
En ce moment, je dirais, on va dire une heure à une heure et demie par jour. J'ai beaucoup diminué vu que maintenant j'ai un emploi et que je vois beaucoup d'amis en dehors de ça. J'ai des projets aussi à côté. Donc j'ai beaucoup diminué, mais une heure et demie par jour, sachant que c'est pas forcément quotidien, c'est de temps en temps quand j'ai du temps libre pour moi.
Et il y en a un en particulier ?
Les jeux vidéo, en ce moment.
Et comment est-ce que tu as été plongé dans ces passions ?
J'ai été plongé assez jeune, en fait. Mon père jouait aux jeux vidéo, ma mère aussi, sur des vieilles consoles. J'ai beaucoup passé de temps, en fait, sur le canapé, à côté, soit de mon père qui jouait à des jeux de combat... dans le genre Tekken ou Street Fighter, tandis que des fois c'était ma mère qui jouait sur des jeux tels que la licence Zelda, sur beaucoup de licences Nintendo, Super Mario. Donc j'ai découvert un petit peu ce milieu-là via le prisme de mes parents.
Et il y a un lien entre ta passion pour les jeux vidéo et les jeux de société ?
Ouais, carrément, c'est quelque chose où en fait j'ai passé tellement de temps sur des écrans que je me suis dit au bout d'un moment il faut que je m'en détache et... une façon de se divertir autre que les jeux vidéo avec des amis, c'est des jeux de société, que ça peut très bien être des jeux de cartes ou des jeux de rôle style Loup-Garou de Tiercelieu ou encore des jeux de plateau. Et j'ai fait un service civique dans les jeux de société aussi en partie, donc ça m'a appris à encore plus apprécier pouvoir animer des temps grâce aux jeux de plateau et jeux de société.
Et il y a un thème que tu préfères dans tes passions du coup ?
Dans mes 4 passions... Je dirais celle qui m'a le plus accompagné tout au long de ma vie, c'est quand même les jeux vidéo. Donc pour moi, c'est vraiment celui-là, je pense.
Et il y en a une œuvre que tu préfères pour chaque passion ?
Une œuvre ? Je suis beaucoup passionné par les nouveaux jeux en fait en open world. J'ai passé beaucoup de temps sur le Zelda Breath of the Wild, mais aussi sur Red Dead Redemption. En fait, le fait d'être dans un jeu vidéo mais pas scripté ou aller tout droit en fait, un peu choisir là où je vais en me baladant. Des fois, je passe une demi-heure à me balader sur une carte et ça m'amuse en fait. Je prends du temps pour moi, c'est pas mal.
Et pour tes autres passions, il y a une œuvre aussi qui te...
Pour les mangas, ouais, Alors pour les mangas, j'ai une œuvre au niveau artistique qui m'a beaucoup plu, même au niveau du scénario, c'est Kingdom qui se passe dans la Chine dans les années 300 à 500 en fait. C'est beaucoup de batailles, de guerres, donc de stratégie, d'histoire, de géopolitique. Et au niveau du visuel, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué, marqué. Et j'ai adoré ce coup de crayon de cet auteur, en fait. Pour le reste, niveau BD, on peut aller sur le thème du donjon de Nullbeuk, qui est un style jeu de rôle où c'est quand même assez. Comment dire, c'est assez décadent, c'est rigolo, c'est il y a le style du jeu de rôle en fait en BD, mais avec des personnages qui sont soit attendrissants, soit un peu grognons ou un peu bêtes. Donc c'est mon œuvre préférée en BD, je pense.
Et tu collectionnes?
Un tout petit peu, ouais. J'ai pas mal de mangas chez moi. J'ai un escalier rempli de mangas et de BD et un peu de jeux de société aussi. Mais ma plus grosse collection, ça reste les mangas quand même, avec quelques œuvres qui viennent directement du Japon, ramenées par une amie.
Moi, j'avais une question parce que je connais pas bien les mangas. Je voulais savoir la différence entre un manga et une BD, en fait.
Déjà au niveau du graphisme, du détail de dessin, c'est quand même assez différent. Après, les BD, en fait, on en trouve de toutes sortes, c'est-à-dire pour enfants, pour ados, pour pré-ados, pour pré-adultes, adultes. Et ben pour le manga, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a différentes sortes un petit peu, c'est-à-dire il y a vraiment des styles bien bien appropriés à une tranche d'âge ou alors à un thème spécifique. Mais la différence, c'est que le format déjà est beaucoup plus petit au niveau du manga par rapport à la BD, donc c'est plus facilement transportable, un peu échangeable aussi entre amis. La différence aussi, c'est le sens de lecture des fois quand ils sont dans le sens du coup japonais et plutôt pas européen ou occidentaux.
D'accord. Et c'est plutôt pour tout public le manga, ça vise tout public ou c'est plutôt pour un public adolescent?
Il y a vraiment tout public. Le manga Kingdom, celui dont je parle en fait, est plutôt réservé à un public averti, un peu adulte, puisque les détails de guerre sont assez. Sont assez violents, donc on ne peut pas donner ceci à un jeune enfant, par exemple, mais il y en a pour tous les types. Il y a des mangas, en fait, pour tout, quasiment, que ça soit fantasy, que ça soit sport, que ça soit un peu géopolitique. Il y a vraiment tous les styles pour tout public. Il faut juste trouver un peu ce qui nous plaît et un peu, genre, regarder chez les copains ou dans les magasins, regarder ce qui peut nous intéresser, en fait, comme thème.
Alors moi j'ai une question pour les non spécialistes qui d'aventure nous écoutent. Donc tu as parlé de jeux vidéo qui étaient non scriptés et d'open world. Est-ce que tu peux en dire plus?
Alors, les jeux vidéo non scriptés, c'est il y a toujours un script, mais on peut se dérober à ce script, c'est-à-dire au lieu de faire l'histoire en commençant par un tenant, c'est-à-dire une problématique, et d'aller directement à sa résolution, on peut se permettre de se balader. Donc du coup, là, le système d'open world et le fait de se balader dans un monde ouvert sans contrainte de suivre une ligne très précise, et en fait. Ça peut être bête, mais on va voir en fait un point sur une montagne, et au lieu d'aller par les routes, on va se dire je vais escalader ou je vais monter par des moyens si je peux atteindre ce point-là. Donc c'est un peu c'est plaisant puisqu'on a cette impression de liberté et de choix lorsque par exemple sur un autre jeu vidéo où on va te demander d'aller à un point A, à un point B sans passer par des chemins divers. Donc voilà.
Mais ça veut dire que en fait, il y a plusieurs façons de, disons, de résoudre une quête ou quelque chose comme ça.
C'est ça, ou même croiser une autre quête lorsqu'on veut résoudre une quête précise. C'est ce qu'on appelle un peu les quêtes secondaires ou side quests, et du coup on peut tomber dessus soit par pur hasard, soit pour terminer le jeu à 100%. Mais oui, c'est une façon de dire je ferai pas ça tout de suite, je vais attendre plus tard et je vais plutôt choisir ce que j'ai envie de faire dans le jeu.
Et donc tu parlais aussi de, comment dire, de jouer avec d'autres personnes que tu connais pas forcément en vrai, enfin physiquement, disons. Et comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a des solidarités entre joueurs, par exemple pour trouver une quête secondaire, pour trouver des astuces, comment ça marche?
Les jeux en ligne, oui, c'est un public qui peut être un peu à double tranchant. C'est soit chacun de son côté, soit tous ensemble. Des fois, trouver des groupes de joueurs, puisque on n'arrive pas à effectuer soit un combat, soit une quête, soit quelque chose, où on peut se regrouper justement, et ça peut être soit vraiment juste pour la quête, et puis après, c'est chacun de son côté, on repart. Soit c'est plutôt bon, bah du coup, on a bien apprécié l'expérience avec les autres joueurs, on a bien accroché au niveau des mentalités, donc on continue à fréquenter ce groupe-là et on continue d'avancer ensemble.
Est-ce que tu joues à des jeux comme ça, des jeux en ligne, Noah?
Non, pas spécialement.
Est-ce que tu as des passions communes avec ton invité, Corentin?
Oui, j'aime bien les mangas et les BD aussi.
Tu lis lesquels alors?
Bah, Donjon de Nahlberg, que j'ai commencé aussi. Après manga, je suis plus dans ce qui reste les animés, c'est-à-dire les versions films ou séries du coup. Mais voilà.
Et ça ressemble à quoi alors? Parce que, comment dire, je pense que parmi nos éditeurs, il y a des gens qui n'ont jamais ouvert un manga, en fait, qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça ressemble à quoi un animé, en fait? Quel trait, quel personnage, de quoi ça parle?
C'est un manga, mais c'est adapté en version télé, quoi, généralement.
D'accord. Mais en fait, c'est quoi? C'est des, par exemple, des personnages, ça peut être des histoires avec des lycéens, ou alors c'est des personnages fantastiques? Quelle sorte d'histoire?
Je sais pas spécialement.
Je me tourne vers Corentin. Ça raconte quoi alors? C'est les mangas dont parle Noah?
Alors, les animations, c'est du coup le fait d'animer pour vraiment un écran, du coup, un manga. Donc, on sort de la version papier, on passe sur une version numérique et graphique. Et ça peut s'adapter, pareil, comme le manga, en fait, en divers volets, comment dire, thématiques. On peut avoir très bien des mangas style les vieilles séries AB Productions, par exemple. On peut avoir ce style-là, c'est-à-dire collège, lycée, vie un petit peu autour de ça. On peut avoir des choses très fantasy, très très portées sur, par exemple, on peut avoir des grands classiques comme Naruto, où ça va être surtout des ninjas, en fait. On va suivre le récit d'un personnage qu'on donne perdant, en fait. Il a un but ultime et on va le voir évoluer jusqu'à son but ultime. C'est ce qu'on appelle shonen, un petit peu, c'est-à-dire on va avoir un combat où le héros va être perdant et tout d'un coup il va le revenir sur le combat en étant gagnant à la fin, voilà, comment dire, une pirouette un petit peu, voilà, donc donner tort, en fait, et donner l'impression que tout est perdu et d'un coup, en fait, tout est gagné. On peut avoir des choses très sérieuses, par exemple au niveau du sport. On a des Kuroros Basket au niveau, bah, du coup, du basket. On a des choses sur du sumotori, sur du vélo, sur du tennis. Il y a de tout, même du culinaire, des concours de cuisine. On a vraiment tous les styles. Et c'est vraiment à chacun de chercher un petit peu ce qui lui plaît, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie de suivre aussi. Est-ce qu'il veut que ça soit long? Est-ce qu'on veut que ça soit court? Est-ce qu'on veut que ça soit en one shot, c'est-à-dire en une fois un film, ou est-ce qu'on veut suivre vraiment sur plusieurs saisons, plusieurs arcs, une histoire et ses personnages?
C'est quoi un arc?
Un arc, c'est comme une saison, en fait, c'est une saison avec une thématique, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, on va avoir l'arc, ça va être le collège. On va suivre l'arc après, ça va être un championnat interlycée. En fait, ça peut être. C'est une thématique par saison.
Alors, est-ce que ça veut dire aussi que dans... Parce que tu nous dis, là, il y a l'exemple de Naruto, donc quelqu'un qui, à la base, est plutôt en difficulté et finalement, à la fin, il gagne. Est-ce que ça, c'est-à-dire qu'il y a des schémas récurrents, en fait, il y a des structures de manga qui reviennent souvent?
Oui, bien sûr, il y a des schémas très récurrents. Le shonen, on en a beaucoup quand même. Peut citer pas mal de noms. Après, c'est il y a aussi le shonen, c'est plus pour un public un peu jeune quand même. C'est pour débuter. C'est après, il y a des choses plus pour les pré-adultes, pré-ados ou adultes même carrément. C'est-à-dire du coup des enjeux très importants sur des univers très fixes, très réalistes, et sur des fois des des comment dire sur des enjeux vraiment qui pourraient très bien arriver comme par exemple je vois sur certains mangas la géopolitique c'est vraiment de la relation entre pays est-ce que ça va être une période de paix est-ce que ça va être une période de guerre on voit défiler un petit peu tout ça et voilà.
Eh bien, je propose qu'on fasse une pause musicale. Alors, peut-être Marjorie, est-ce que tu as une musique à nous proposer?
To Stay de Justin Bieber.
Alors, on écoute ça dans la Méridienne sur Radio Campus Tours et on se retrouve tout de suite après.
I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't a way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could.
Merci Marjorie pour cette pause musicale. Vous écoutez toujours Radio Campus Tours. Vous écoutez La Méridienne. Et je crois maintenant, Corentin, pardon, qu'il était l'heure de parler de rugby.
Oui, du coup, Noah, je voulais te demander, enfin, du coup, ta passion, c'est le rugby. Je voulais te demander pourquoi le rugby et pas un autre sport ?
Parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, avec mon père qui était aussi un grand fan de rugby, qui a été un joueur de rugby, qui a été joueur de rugby aussi. Et du coup, j'ai baigné dedans depuis tout petit et que je suis vraiment passionné par ce sport.
D'accord. Et c'est que par le prisme du coup de ton père où c'était le rugby, aucun autre sport t'a attiré un petit peu ton attention ou...
Non, parce que c'était vraiment... Depuis que je suis tout petit, j'ai vraiment regardé que ça jusqu'à du coup... toujours, en fait, j'ai quasiment regardé que ça tout le temps. J'ai toujours été un grand fan de rugby, donc... je sais pas.
D'accord. Est-ce que tu as joué au rugby et si oui, pendant combien de temps ?
Oui, j'en ai fait 4 ou 5 ans et demi et je me suis blessé, du coup j'ai dû arrêter.
D'accord. Et tu en as fait à Tours ?
Non, à Orléans.
Orléans.
Dans une ville à côté d'Orléans.
Ok. Quelle ville précisément, peut-être que je
voulais... Fleury-les-Aubrais.
Ok, très bien. Et tu as occupé quel poste ?
En arrière, 9, 10, ailier, 15.
D'accord. Et ce poste-là te plaisait vraiment ?
Oui. La distribution du jeu ou au contraire du coup la finition ou être le dernier rempart.
Très bien. Et du coup tu as disputé en 5 ans beaucoup de matchs. Est-ce qu'il y a une équipe, peut-être un match qui t'a plus marqué qu'un autre?
Pas spécialement.
Non. Est-ce que du coup, là en ce moment, tu suis beaucoup le rugby à la télé?
Bah oui, en général, oui.
Et du coup, quelle équipe est mon équipe favorite?
Toulouse.
Très bien. Du coup, est-ce que tu as apprécié ces 5 années de rugby avec l'équipe, l'ambiance qu'il y avait?
Oui.
Tu t'es fait des amis du coup via cette équipe ou tu les connaissais déjà ou...
Non, non, je connaissais personne. Oui, je me suis fait des amis. C'était sympa, oui. Non,
D'accord, très
c'était bien.
bien. Ok.
Moi, j'ai une question pour les gens qui connaissent pas trop le rugby. Comment se joue le rugby par rapport au foot? Est-ce qu'il y a des techniques parce que tout le monde ne connaît pas bien le rugby. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement, les règles? Vous parliez des postes, les postes, en quoi ça consiste? Les costauds, ils sont plutôt où? Les rapides, ils vont plutôt où? Sur un terrain, comment la dynamique du jeu?
C'est un jeu qui se joue à 15, c'est un sport du coup qui est extrêmement collectif. Le jeu se joue en arrière, c'est-à-dire que les passes s'effectuent en arrière et que du coup le but c'est de progresser en portant le ballon jusqu'à l'en-but adverse ou du coup au moyen de pénalité de gagner des points. Le but du coup c'est d'avoir le plus de points à la fin des 80 minutes qui sont divisées en demi-temps de 40. Bah, les postes, on va dire que du coup les plus costauds ils vont devant, c'est-à-dire que les 8 de devant c'est ceux qui poussent en mêlée, qui sautent en touche. Généralement les plus grands sautent en touche et occupent les postes de deuxième ligne, troisième ligne. Après, ça va être oui, les plus rapides, du 9 au 15 qui dit où le 9 et 10 distribuent le jeu. Du 11 au 14, ça va être les percées du coup. Ceux qui courent, qui feintent l'adversaire, etc. Le 15 aussi en phase d'attaque, et le 15 surtout en défense, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire que si jamais il y a un adversaire du coup qui franchit le rideau défensif, et c'est le 15 qui du coup qui doit rattraper.
Et du coup, est-ce que tu apprécies cette. C'est quasiment. Enfin, c'est pas le seul sport, mais c'est un sport où vraiment on a des différences de gabarit, de taille, de vitesse, de technique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît particulièrement par rapport à un autre sport
Ah oui, okay, du coup oui, c'est vraiment ça qui est du coup qui fait la force du rugby aussi, c'est la diversité des personnes, des morphologies, des tailles, de tout qui fait que du coup c'est aussi beau à voir parce que tu peux avoir un tout petit comme un grand gros, ça fait vraiment une grande diversité. C'est vraiment en plus quelque chose qui n'est pas handicapant dans ce sport où par exemple l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Et un joueur plutôt petit, Chelsea Colby, c'est un joueur extrêmement petit, mais qui a une grande capacité de feinte, des excellents appuis, une grande vitesse. À côté de ça, il y a des joueurs plus costauds, du coup, qui sont aussi extrêmement forts, et c'est vraiment ça bien, ça fait une grande diversité, c'est vraiment super.
Du coup aussi, ce qui est bien, c'est, enfin moi, c'est mon ressenti aussi en y ayant joué, c'est les actions des fois peuvent se dérouler de façon différente, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux fois la même action et pas deux fois la même stratégie employée. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment quelque chose de préparé, mais on peut faire volte-face d'un coup en décidant plutôt de vouloir échapper à l'ennemi, plutôt enfoncer les murs de défense avec du coup un pilier ou un plus gros gabarit.
Ouais, c'est surtout notamment près des lignes, les actions près des lignes avec du coup les pick and go. Alors qu'à contrario, quand on va être plus vers le milieu de terrain, c'est plus là qu'on va essayer de faire jouer les arrières avec les centres pour essayer de faire des percées. Et tout dépend de où on se situe et de comment est-ce que se présentent les choses, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire, toi, Noah, le temps que ça peut te prendre sur une semaine, par exemple? Combien tu
Pour une
consacres
semaine.
combien de temps à ta passion par jour?
C'est plus le week-end du coup, à partir du jeudi où du coup il y a le premier match de Pro D2, le vendredi il y a le reste de la journée. J'y passe du coup les journées, enfin les semaines où je regarde que le top 14, j'y passe à peine 13 heures.
Est-ce que c'est comme au foot aussi, il y a des coupes de France, des coupes...
Ah oui, tout à fait, il y a une Coupe du Monde qui est organisée tous les 4 ans comme au foot. D'ailleurs la prochaine se déroule en France en 2023. Il y a un championnat national, le top 14. Il y a juste en dessous avec le Pro D2. Il y a l'échelle européenne avec la Coupe d'Europe, la H-Cup et la Champions Cup, qui est la version Europa League du coup du rugby. Il y a un tournoi destination à l'échelle européenne entre nations du coup. Et il y a pareil au niveau océanique avec le Four Nations entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Ah, j'aimerais bien, mais bon. Et les places sont pas très faciles à obtenir, quoi.
Faut déjà s'y prendre, j'imagine. Faut s'y prendre à l'avance. Déjà, c'est peut-être là maintenant pour
Non,
anticiper,
les
non?
premières places, ça fait. Elles ont été distribuées depuis mars 2020, si je
Ah
dis pas
oui.
de bêtises. Mais c'est que quelques places, et là, je sais pas si. Je suis plus vraiment à la billetterie, mais je sais que c'était par épisode où, du coup, ils lâchaient des places, mais enfin. En 48 heures, elles étaient toutes écoulées, quoi.
Il
Même
faut
pas.
compter combien à peu près pour une place?
Ça dépend. Ils ont mis en place un plan économique sur cette Coupe du Monde où, du coup, les billets peuvent partir de 35 euros, si je dis pas de bêtises. Mais les plus chers, bah, ça se vend à prix d'or, quoi. Surtout sur des phases finales, etc.
Est-ce qu'il existe des équipes féminines au rugby?
Oui, tout à fait.
On n'entend pas trop parler, contrairement au foot.
Si, parce que, enfin, je sais pas, mais au rugby, si, il y a aussi des équipes féminines. Il y a une équipe de France féminine qui est d'ailleurs assez bonne en ce moment avec de bons joueurs. Mais oui, il y a du féminin. Même au niveau du top 14, etc. Mais c'est moins joué.
Avec les mêmes règles.
Je crois, oui, je suis pas totalement, mais ça reste les mêmes règles, je pense.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Tu disais que le rugby, ça se jouait à 15, et des fois, ça peut aussi se jouer à 7.
Ah oui, ça peut se jouer à 7, à 13 et à 10. Il y a plusieurs variantes. Il y a extrêmement. Il y a une panoplie du coup de règles en fonction des 4 jeux qui s'adaptent énormément. Il y a aussi le rugby australien. Du coup, les règles, ça reste globalement que les passes sont en arrière. On a le droit des jeux au pied. Ça se joue sur des mêlées, c'est des phases de contact. C'est un sport de combat de toute façon. Donc, enfin, voilà. Mais ça reste globalement les mêmes règles avec du coup les passes qui s'effectuent uniquement en arrière, les plaquages c'est sur une zone délimitée parce que sinon c'est dangereux. En fonction du coup du positionnement aussi avec leur jeu. Le rugby est d'ailleurs le seul sport où leur jeu se délimite pas par l'adversaire mais par rapport à son propre coéquipier dans les zones de ruck.
Et quel est ton style du coup de rugby favori?
Rugby à 15.
Là où il y a le plus de possibilités du coup.
Oui, il y a le plus de joueurs, il y a plus de monde sur le terrain, il y a moins d'espace, du coup une percée, ce sera toujours plus spectaculaire quand t'arrives à éliminer trois joueurs qui sont côte à côte que quand il y a un gros trou. Mais après, les autres rugby sont aussi beaux à regarder, ils ont tous leurs points forts et du coup leurs différences. Mais personnellement, je préfère le rugby à 15, c'est celui qui est le plus diffusé.
Moi, je reste classique, c'est 15, du coup, c'est celui auquel j'ai joué et que je regarde, du coup, puisque c'est le plus diffusé, de toute façon, ça m'est déjà arrivé de regarder du rugby à 7, c'est assez différent au niveau du jeu, ça reste sensiblement pareil, mais vu qu'ils sont moins nombreux sur un même terrain, ça crée des actions qui assez cool, je trouve, pour moi.
Et tu supportes quelle équipe?
J'étais plus Clermont-Ferrand, moi. Donc voilà. Maintenant, je suis plus non plus à regarder tous les matchs, mais lors des Coupes du Monde, je regarde le plus souvent du coup les premiers matchs et la finale, souvent.
Moi, j'avais une autre question. Alors, le haka, est-ce que c'est dédié juste à la Nouvelle-Zélande ou alors chaque équipe peut faire le haka? Est-ce qu'il y a différentes sortes de haka? Et qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Si vous pouviez nous expliquer un petit peu.
À la base, le haka, c'est une danse guerrière qui est effectuée par du coup les peuples de Nouvelle-Zélande, mais aussi des Fidji, des Tonga, de toute l'Océanie, à peu près par l'Australie. Du coup, c'est de base une danse guerrière qui est effectuée. Non, la Nouvelle-Zélande n'est pas la seule, mais enfin, c'est la plus connue parce qu'ils ont notamment les haka les plus spectaculaires, les plus violents. Mais les Tonga, les Samoa aussi en effectuent un, les Fidji aussi, si je dis pas de bêtises. Et oui, il y a différents haka, il y a beaucoup de haka. Il y en a un qui est du coup le plus connu, qui est extrêmement violent, où il mime une décapitation, etc. Mais il y a différents haka. Le haka, du coup, c'est plus en fonction de celui qui est fait, c'est-à-dire que s'ils en font un violent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de respect vis-à-vis de l'adversaire. Mais après, il y a quand même d'autres haka, mais c'est plus une tradition, du coup.
C'est du respect, c'est une marque de respect, ou alors c'est plutôt au contraire pour intimider l'adversaire avant de commencer un match
Ah bah bien sûr, c'est aussi une question d'intimidation, parce qu'un match de rugby, ça se joue aussi sur l'aspect psychologique. Ça se voit notamment vis-à-vis des buteurs, qu'un buteur enfin en forme ou un buteur qui du coup doute n'auront pas du tout les mêmes performances. Mais c'est du coup surtout sur l'aspect psychologique, mais il y a aussi une forme de respect du coup dans le haka préparé, et puis du coup ça donne une sorte d'estime à l'adversaire.
Tout pareil. Non mais c'est vrai que le haka c'est assez impressionnant. Pour moi c'est vrai que c'est plus pour intimider, mais c'est aussi une force un petit peu de tradition, enfin une façon de une tradition pour l'équipe, pour se rendre fort, pour intimider, pour montrer le respect aussi qu'ils ont à leur adversaire. C'est vrai que le haka c'est particulièrement connu contre un match de la France du coup où l'équipe de France a décidé de s'approcher au plus près de l'équipe néo-zélandaise pour mettre la pression, pour montrer qu'ils n'avaient pas peur. Donc voilà.
Je crois qu'il y a eu deux matchs, si je dis pas bêtise, il y en a un, c'était lors de la Coupe du Monde 2011, où du coup ils sont arrivés en finale et qu'ils ont formé un V. Et il y en a une où ils s'étaient rapprochés, qu'ils étaient nez à nez avec l'All Black, je crois.
C'est la deuxième dont je me souviens le plus.
Mais je sais pas quand c'était celle où ils se sont rapprochés, mais je me rappelle du V, oui. Le V de la victoire.
Moi j'aimerais savoir comment vous regardez un match. Est-ce que vous regardez sur un grand écran avec des amis, des parents? Ou alors, est-ce que vous regardez peut-être en différé? Comment vous regardez les matchs?
Ça dépend. Souvent, c'est soit avec mon père, soit seul. Je regarde à la fois sur mon téléphone, sur la tablette, ou sur l'ordinateur, ou sur la télé. Plus souvent sur la télé. Je regarde généralement en temps réel, mais quand je les loupe, je regarde en différé.
Pour moi, quand j'étais en équipe de rugby à Bourges, du coup, c'était souvent avec des amis de mon club, dont un qui était dans ma classe et où on allait tous les mercredis aux entraînements ensemble. Quand on regardait les matchs, c'était souvent tous les deux. Ou alors sur les gros événements avec mon meilleur ami, soit chez mes parents ou chez les siens, ou alors des fois en ville, sur une terrasse. Du coup, voilà, histoire de partager un petit moment de convivialité. Et d'apprécier du coup un match.
Est-ce que c'est un truc que vous aimez faire aussi, par exemple, de refaire le match entre guillemets, ou de commenter en fait ce qui s'est passé avec des amis, avec d'autres personnes qui sont intéressées par ce sport?
Oui, de toute façon, je pense que tout le monde y va à la fin d'un match, tout le monde y va de son commentaire, notamment sur l'arbitrage. Mais oui, de toute façon, tout le monde commente un match. Bon, après, le plus polémique, ça restera la finale de 2011, justement. Mais bon.
Oui, après les commentaires sont soit constructifs, soit pas du tout, mais c'est vrai que les commentaires d'arbitrage, souvent ça fait un peu débat. Moi, j'aime bien apprécier surtout le moment et l'après, c'est la victoire ou la défaite, peu m'importe, mais c'est de partager un bon moment sur le moment même. Bien sûr que revenir dessus c'est important, mais vu que je suis pas un professionnel stratégique du rugby, je peux pas du coup parler pendant une demi-heure, une heure sur un match entier.
Est-ce qu'on ferait une pause musicale?
Pourquoi pas?
Alors je crois que tu as choisi un titre, Noah, c'est quoi?
Toi qui me juges, de Ewoks.
Alors on va écouter ça dans la Méridienne et on se retrouve tout de suite après.
Thank you. l'époque, selon les corps de métier, selon les régions d'habitation, selon l'âge et l'ancienneté, selon les classes sociales auxquelles nous sommes apparentés, selon les cases dans lesquelles ils nous mettent pour mieux nous contrôler. Chacun son style, chacun s'habille, comme le veut notre société, faite de dress code et de conduite qu'il nous faut sagement respecter. Chacun son style, chacun s'habille, en perdant sa liberté, correspond à des critères qu'il voudrait nous imposer. Faut segmenter, les gens sont classés dans des cases où l'opinion publique ne cesse de les catégoriser. Un objectif, garder tes différences, c'est ta marque de fabrique pour être à l'aise dans tes pompes comme l'expression que tu connais. Toi qui me juges, tu croises mon intégrité. Si les apparences sont trompes, je peux sûrement vous l'expliquer. Tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder? Es-tu prêt à franchir ce cap avant de me critiquer? Si trop de différences nous séparent, c'est ça la mixité. Alors essaye de comprendre ça avant de fabuler. Toi qui me juges, me connais-tu vraiment? Sais-tu ce qui compte peu pour moi de ce qu'il y a d'important? Connais-tu mon vécu, mais le connais-tu vraiment? Peut-on connaître une personne, savoir ce qu'elle pense intérieurement? Toi qui me juges de manière précipitée, crois-tu que des fringues portées déterminent ta mentalité? Qu'une tignasse visuellement nuisible puisse te discréditer? Pourquoi le moindre détail sert à nous cataloguer? Te vois me juger comme cela, c'est clair, je ne l'admets pas. Un peu de barbe et une casquette, je sens que ça ne passe pas. Dis-moi pourquoi ton esprit s'est fait formater jusque-là. Sois plus malin que tes préjugés, est-ce que tu peux comprendre ça? Des études et des idées, un bac plus sain comme attitude. Je ne rentre pas dans tes codes, je perçois là ton inquiétude. Ton regard était méprisant pour jauger mon attitude. Jugé trop vite par l'apparence, comme tomber dans la solitude. Toi qui me juges, tu croises mon intégrité. Si les apparences sont trompes, je peux sûrement vous l'expliquer. Tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder? Es-tu prêt à franchir ce cap avant de me critiquer? Si trop de différences nous séparent, c'est ça la mixité. Alors essaye de comprendre ça avant de fabuler. Vie, vie sans forcément des visages et les autres. Tu ne peux agir comme cela dans l'erreur et la faute. Suis, suis le chemin qui te rapprochera des nôtres. Aucune division sociale, voilà ce que je te propose. Nous l'admettons, à cause de cette force machiavélique, ce formatage cérébral huilé comme une mécanique. Son rouage nous entraîne dans des profondeurs aquatiques. Pris dans son tourbillon, nous pousse à la faute systématique. Libère-toi de ce besoin d'appartenance. Dialogue avec ton prochain sans te méfier des apparences. Libère ton esprit, efface toute trace de préjugés. Parce qu'il vaut mieux connaître que vouloir présumer. Toi qui me juges, tu croises mon intégrité. Si les apparences sont trompes, je peux sûrement vous l'expliquer. Tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder? Es-tu prêt à franchir ce cap avant de me critiquer? Si trop de différences nous séparent, c'est ça la mixité. Alors essaye de comprendre ça avant de fabuler.
C'était un choix musical de Noah. Merci Noah pour cette pause musicale. Vous écoutez toujours La Méridienne. Et alors, il y a ici deux personnes que nous n'avons pas encore entendues sur leur passion. Alors, Émilie, est-ce que tu as des passions, toi?
Alors, j'ai eu des passions. Maintenant, c'est vrai que j'arrive à une période de ma vie où j'ai mon rôle de maman, mon travail... Donc, je suis plutôt à la recherche de passion maintenant que mon fils est un peu plus grand. Et donc, j'essaye des petites choses que j'aurais pas forcément essayé plus jeune, comme l'équitation. Donc, voilà, je me laisse un petit peu de temps, je découvre. On va dire que les centres d'intérêt changent, en fait, au cours de sa vie. Et là, j'en suis là, moi.
Et est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressaient plus à une époque et qui maintenant, bon, te motivent moins?
Les sports d'équipe, oui, le basket. J'ai pratiqué pendant 9 ans le basket. Donc, c'est vrai qu'il y avait tout l'esprit d'équipe, justement, si on peut revenir au sport, où c'était la cohésion, les matchs le week-end, une équipe de copines autour des valeurs du sport, perdre ensemble, gagner ensemble. Bon, après, il y avait les sorties avec les copains, où effectivement, ça prenait une grosse, grosse place. Mais là, c'est... Voilà, c'est autre chose. C'est vraiment pour le bien-être, l'évasion. C'est complètement différent.
Et Marjorie, alors ?
Moi, j'ai eu une passion pendant très très longtemps pour la danse que j'ai pratiquée pendant 10 ans, mais au fur et à mesure, il y a pas trop d'heures qu'à la fin, j'y ressentais plus vraiment goût. Donc j'ai fini par arrêter et en même temps l'année du bac. Donc voilà, après sinon, de passion, là actuellement, j'en pas réellement. Après, il y a des choses que j'aime faire comme dessiner, lire, mais il faut que je prenne du temps pour.
Et d'ailleurs, tu dis, bah voilà, à force d'en faire trop, peut-être qu'on se démotive autour de la danse. Et donc, ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Corentin, autour des jeux vidéo, qu'il y a un moment, bah, c'est trop de passion, tue la passion, c'est ça ?
C'est ça, encore plus sur les jeux vidéo, puisque ça devient une addiction d'être devant un écran. Ça prend beaucoup trop de place dans un seul cerveau, dans une seule vie, dans une seule journée. C'est-à-dire que des fois, on peut en arriver à un point. Moi, étant plus jeune, au collège, j'en suis arrivé à un point où je me couchais très tard. Comment dire, je sacrifiais beaucoup de temps de sommeil, beaucoup de temps de devoirs. Sur ma passion pour les jeux vidéo, retrouver des amis qui eux avaient pas forcément le même emploi du temps que moi, et puis du coup on se lève, on se prépare pour aller à l'école, nos premières pensées sont quand même pour cette addiction ou cette passion. Ça tout dépend en fait de si on s'en rend compte ou non, puisque moi à l'époque c'était ma passion, et au fur et à mesure du temps j'ai vu que ça empiétait beaucoup trop chez moi, donc j'ai décidé de vraiment freiner, m'attacher à d'autres choses. Puisque en fait on n'a plus le même plaisir de vivre des heures durant sa passion ou du coup en partager ou quoi. Donc j'ai dû un peu freiner, stopper les écrans, retour un peu à la réalité, sortir, faire du vélo, voir des amis et pour mon plus grand bien au bout d'un moment.
Bien, on se regarde tous pensifs. Et moi, et alors, dans ton travail au Bige, comment tu parles des passions avec les jeunes ? Est-ce que vous faites des échanges là-dessus ? Justement, c'est peut-être sur l'idée de passion-addiction.
Alors, on n'est pas formé pour ça, mais quand on parle des fois avec des jeunes, ils nous disent « Ah, bah, moi, j'aime bien faire ça. » Et puis, on commence un peu à creuser, on parle, on trouve des fois pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais on connaît le centre d'intérêt de l'un ou de l'autre. Après, les gens que je croise sont souvent quand même plus modérés. Les passions qui deviennent des addictions, c'est plutôt quand on est jeune, quand on fonce un peu tête baissée et qu'on se plonge dedans. Donc aujourd'hui, je pense que les jeunes ont aussi une part de ben voilà, j'ai des responsabilités, je suis quand même plus grand, j'ai plus 12-13 ans où je peux passer tant de temps sur ma passion. Enfin, quoique, des fois si. Mais du coup, ils ont aussi beaucoup de responsabilités. Des fois, ils ont un logement à tenir, ils ont des études à finir, des copains à voir aussi, des fois, ce qui peut être pas mal. Donc on n'aborde pas trop ce sujet-là, mais des fois on sent qu'il y a des choses qui ont pris beaucoup de place dans la vie d'une personne, et c'est agréable de partager ces moments de discussion avec ces gens-là et d'écouter ce qui les anime justement.
Et comment on apprend à écouter ces jeunes alors qui viennent au Bige ? Comment ça s'apprend ça ?
Je dirais pas que c'est inné, ça se construit, mais faut être attentif, faut savoir un petit peu partager aussi son point de vue ou sa situation quand on a connu la même. C'est vraiment un échange, c'est un partage en fait. L'écoute, c'est bien, mais s'il n'y a pas de réaction derrière ou s'il n'y a pas de retour, c'est un peu pas malaisant, mais c'est un peu triste.
Je crois que c'est toi, Quentin, qui a choisi la dernière pause musicale.
C'est ça, c'est Big Aranx, My Face.
Alors on écoute ça dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
Give thanks for the time and the weather. Me have life, me no dead. Me have to climb up on the ladder. Sometimes it's hard for my sister, me prayed up. But we no fed up, the future we no afraid of. Yeah, I sunshine on my face. None of them could have take my place. Live up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life we don't stop. Boom, I try to move intelligently. I make my music differently. Big up Attili, big up Mr. Brandy. I put my voice on a good frequency. Life it no sweet like a box of candy. But everything is good from God defend me. Wicked people want to rearrange me. But none of them I could ever, ever change me. Yeah, my sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Mash up the dance, we no flop. Boom, sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life, we don't stop. Boom, the sunshine rise and push away the rain. The rain in Spain falls mainly on the plain. Forward with the thinking of the future in my brain. The negativity, we just have flush it on the chain. In my fortune cookie, he tell me me no rookie. Squanny and skinny, but telling me no bookie. I just wanna have a good day. Count my blessings and share my prey. Yeah, I sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Mash up the dance, we no flop. Boom, sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life we don't stop. Boom.
Nous venons d'écouter Bigaranx sur Radio Campus Tour dans la Méridienne. Voilà, c'était le choix musical de Corentin. Alors, chers auditeurs, cette émission touche déjà à sa fin. Noah, je te laisse la parole pour conclure cette émission.
Actuellement, il y aura 3 matchs de l'équipe de France qui vont arriver, où ils vont affronter l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande, le 6, le 14 et le 20 novembre. Et voilà. Et Corentin, tu pourrais nous parler plus du Bige?
Alors le Bige, du coup, il est ouvert à tout le monde actuellement sur des horaires plutôt d'après-midi à part le mercredi où on fait 10h-19h en continu. Donc vous pouvez me trouver là-bas avec les référents étudiants la plupart du temps ou dans la rue avec nos plus grandes discussions, nos sacs à dos référents étudiants, nos masques ou nos casquettes pour venir à votre rencontre. En ce qui concerne l'actualité du Bige, nous avons le salon de l'étude supérieure Studirama qui se passe au Vinci où nous serons présents, mes collègues du Bige, animateurs, documentalistes, ou même nous, référents étudiants. On sera aussi à la nuit de l'orientation au Vinci, j'ai plus la date, le 3 décembre, j'ai peur de dire une bêtise, de 17h à 21h. Et aussi une exposition sur place sur l'égalité homme-femme et la neutralité dans les villes du centre Val-de-Loire, en exposition au Bige, dont je rappelle l'adresse 57 avenue Gramont, à 37 000 tours.
Et on se demandait aussi, c'est à partir de quand on est jeune et on ne l'est plus pour venir au Bige.
La tranche d'âge, le public cible, c'est 15 ans à 30 ans, puisque bon, jeune, ça veut un peu tout dire quand même. Mais il n'y a pas de limite d'âge pour prendre des informations, que ce soit pour soi, ou même pour ses enfants, ou ses cousins, ses frères et sœurs. Tout le monde est le bienvenu, c'est un accueil gratuit, anonyme et libre.
Merci, eh bien, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci à tous d'avoir participé à cette émission La Méridienne. On vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez cette émission en podcast sur notre site et rediffusée aujourd'hui à 17h.
Merci.
Merci.
Merci.